question d'aujourd'hui est probablement de réfléchir en quoi pourrait constituer une sociocritique du rock. Ça se heurte d'emblée à un certain nombre de difficultés, la toute première étant qu'on a affaire à la musique. Quand on s'intéresse au rock, en fait c'est de la chanson, mais je dis rock pour distinguer de tout ce qui est chanson at large, on a certes une composante textuelle, des paroles, donc qu'on peut lire comme on lirait n'importe quel autre texte, mais on a aussi, s'ajoute à ça, une composante musicale qui ne signifie pas comme un texte ou comme une image. Et donc ça change radicalement la donne. À ce sujet, j'ai relevé un paradoxe ou même une contradiction dans le Manifeste du Christ. C'est-à-dire que d'une part, il est dit qu'on peut faire l'étude sociocritique d'une symphonie, mais il est également précisé que la socialité des textes est analysable dans leur procédure de mise en forme, lesquelles se comprennent rapportées à un ensemble sémiotique plus large de nature langagière ou visuelle. Et donc, l'ensemble de nature plus large est toujours rapporté à quelque chose qui a une signification sémiotique. Donc, l'ennui, lorsqu'on se heurte à la musique, c'est peut-on faire la même démarche par rapport au son? Oui.
Je voudrais signaler que cette expression-là en particulier est due à Sylvain David, qui, lors de la rédaction du manifeste, a dit on va mettre langagière car ça comprendra la musique.
J'ai dit ça, bon. Toujours est-il que j'allais justement poser la question après, justement, la musique est-elle un langage? Certes, mais qui ne fonctionne pas du tout de la même manière que seulement un langage textuel ou un langage pictural, et ça complique un peu les choses. Donc, vraiment, lorsqu'on parle de citation musicale, de récupération musicale, comme Philippe en parlait tout à l'heure, oui, on peut voir le même fonctionnement de circulation, mais ça ne signifie peut-être pas de la même façon. Donc, première difficulté, faire face à la musique. Amusant. Deuxième difficulté, c'est la pauvreté musicale de la forme rock. J'adore le rock, mais force est de reconnaître que ça n'a pas la sophistication finalement d'un certain jazz, de la musique symphonique, etc. J'ai lu, je ne prétends pas avoir fait le tour de la question, mais quelques musicologues se sont intéressés à la question du rock et tous en viennent un peu à la même conclusion, que lorsqu'on tente de faire une analyse strictement musicologique, c'est-à-dire essayer de penser le rythme, la mélodie, l'harmonie, etc. par rapport au rock, on passe à côté du fond de la question et tous disent que quand même ça se rapporte à une question d'énergie, une question d'ambiance, une question de texture sonore et finalement l'interprétation est absolument nécessaire pour finalement bien cerner le phénomène et si on fait simplement une mise à plat théorique, ça fonctionne un peu moins bien. Donc évidemment, si on accepte ceci, l'ennui c'est que la musique peut être un peu subsumé aux paroles, donc finalement ça devient une sorte de musique d'accompagnement pour un propos, mais en même temps, force est de constater que la plupart des auditeurs de rock ne comprennent tout simplement pas les paroles de toute manière, et donc finalement, là encore, il y a finalement une sorte de difficulté, donc là encore, l'objet est paradoxal. Enfin, troisième difficulté, mais qui est une difficulté moins général, c'était pour que la présentation soit intéressante, il fallait que je trouve un objet qui allait quand même un peu résister à l'analyse. Philippe, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais quand on avait parlé l'an dernier, ou il y a 2 ans, avait lancé la question qui m'avait bien intéressé. Il avait dit, ben voilà, j'arrive à faire cette analyse de Mingus, mais est-ce qu'il serait possible de faire une sociocritique de la médiocrité? Donc j'ai été tenté de le prendre au mot et de faire une sociocritique sur un album des Ramones, mais je me suis rendu compte que finalement j'aurais comme très rapidement épuisé mon propos et que j'aurais peut-être fait une conférence en phase avec l'objet, c'est-à-dire qu'il aurait duré 2 minutes et demie. Donc, moi aussi, je triche et finalement, je vais passer par quelque chose d'un peu plus complexe et de plus noble. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'album double des Clash, London Calling, qui est paru en 79. C'est un album qui, aujourd'hui encore, est considéré comme à la fois le sommet du groupe, mais aussi un sommet du genre. 30 ans après sa publication originelle, c'est encore dans tous les panthéons des albums qu'on doit absolument posséder dans sa discographie, etc. Lorsque des sondages, quel est évidemment l'album le plus significatif des années 80, ça arrive toujours en tête des palmarès, etc. Donc, je suis ici, d'une certaine manière, dans l'équivalent rock de la grande littérature. Je suis vraiment au plein cœur du canon. Donc, pour essayer de répondre à cette question, comment peut-on faire, pourrait-on faire une sociocritique du rock? Je vais procéder en 2 temps. Premièrement, je vais vous offrir une sorte de lecture sociale ou sociocritique de l'album, mais c'est pour surtout vous présenter finalement la chose et comment ça fonctionne. Et je vais conclure en essayant d'en tirer quelques pistes de réflexion théorique, mais qui demeurent, finalement, je ne vais pas trop vous faire miroiter des grandes surprises, quand même très préliminaires. Donc, qu'est-ce que London Calling? c'est le troisième album des Clash. Les Clash se sont fait remarquer avec un premier album paru en 1977, un album éponyme qui finalement les a d'emblée positionnés comme des leaders du mouvement punk. Ils ont fait un deuxième album en 1978 intitulé Give Them Enough Rope. Bon, la suite implicite étant So They Will Hang Themselves, donc vraiment une métaphore du capitalisme, qui finalement était, de la vie générale, beaucoup moins réussi. Et donc, finalement, la barre était haute pour London Calling. Ils devaient absolument vraiment, refaire quelque chose d'intéressant. Ils réussissent à faire quelque chose d'intéressant avec London Calling, notamment parce qu'ils essayent de transcender le mouvement punk originel qui commence, d'une part, à s'instituer, mais aussi à battre de l'aile. Et donc, finalement, ils cherchent à s'en sortir, à proposer autre chose. Et ils le font notamment par un élargissement notable de leur palette thématique et musicale. Bon, ceci appelle deux mises en contexte, c'est-à-dire d'une part au sujet du punk et d'autre part au sujet du groupe de Clash. Très rapidement, qu'est-ce que le punk? Simplement pour qu'on se comprenne, c'est un mouvement qui est avant tout musical. On peut en trouver finalement les vraies origines dans la scène new-yorkaise des années 70. Comme je parle d'un groupe anglais, je vais m'en tenir ici à la scène anglaise, ça sera plus simple. C'est un mouvement donc qui réagit avant tout contre une certaine stagnation perçue dans le rock. C'est-à-dire tout ce qui pouvait être dangereux, un peu subversif dans le rock des années 60, et pour beaucoup complètement disparu dans les années 70. C'est-à-dire d'une part, c'est ce que Gainsbourg pourrait appeler les ex-stars des 60s qui continuent à dominer les palmarès et font de la musique de moins en moins intéressante et pertinente. D'autre part, il y a la naissance du rock progressif, des gros groupe vraiment de musiciens virtuoses à la Led Zeppelin qui finalement sont rendus dans des chansons qui durent 10 minutes avec des solos de batterie interminables, etc. Et pour beaucoup, ça paraît finalement comme une sorte de rupture avec finalement l'esprit même du rock. Donc le punk vise à faire une sorte de tabula rasa, de proposer une musique extrêmement simple, extrêmement crue, avec un contenu social pour essayer de revenir finalement au côté un peu dangereux et subversif de la chose. Ceci, finalement, s'inscrit dans un contexte social plus large. On est, finalement, dans la fin des Trente Glorieuses. C'est, finalement, la crise du pétrole, un chômage accru, des difficultés économiques. En Angleterre, l'hiver 77 a carrément un nom, c'est le Winter of Discontent, où, finalement, l'Angleterre a des graves problèmes socio-économiques. Ça, je ne le savais pas, mais ils ont été obligés carrément de demander un prêt au FMI, donc vraiment comme une nation du tiers-monde, pour essayer de maintenir le cap. Tout le monde se met en grève, notamment les éboueurs, ce qui font que dans les rues de Londres, il y a des piles et piles de poubelles qui s'empilent, ça commence à puer. Donc, il y a vraiment comme une sorte de sentiment d'apocalypse. Et c'est ce qu'on entend généralement aussi, finalement, dans les médias, etc. Donc, le punk se fait, d'une certaine manière, l'expression de ce sentiment de fin du monde. Et il n'est pas, si on fait faire encore un pas de plus en arrière, c'est aussi à ce moment que, finalement, apparaît tout ce qu'on a pu appeler la nouvelle philosophie, qui commence à parler de la fin des grands récits, etc. Et donc, finalement, toute cette décomposition de l'idée du progrès dont parlait Marc Angenot. Le punk, finalement, est vraiment la version très culture pop de ceci. Donc, contextualisation très rapide du punk. Donc, vraiment, à la fois une tabula rasa musicale et une réaction, finalement, à un contexte social problématique. Présentation des Clash, finalement. Des Clash sont, avec les Sex Pistols, ce sont les deux grands mouvements phares du punk anglais, mais ça montre d'emblée, finalement, une sorte de dichotomie dans le genre. Les Sex Pistols sont un groupe de pure provocation, c'est-à-dire des bouffons qui ne savent pas vraiment jouer, qui font tout pour embêter les gens, qui n'hésitent pas, finalement, à récupérer n'importe quel symbole douteux pour choquer, c'est-à-dire les Sex Pistols s'affichaient notamment avec des croix gammées, etc. Donc, c'est vraiment un groupe purement nihiliste, qui est là pour embêter les gens. C'est un groupe qui, finalement, fait un seul album qui a complètement chamboulé le monde du rock, mais évidemment qui ne fait pas long feu, et, je veux dire, au bout de 2 ans, le groupe se sépare et le bassiste meurt d'une overdose. The Clash, ça représente l'autre version du punk, qui d'emblée considère qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec la chose d'un point de vue politique, et qui ancre le punk dans l'extrême-gauche. Donc, notamment, qui participe dès ses débuts au festival Rock Against Racism, et donc qui prend de ce fait complètement ses distances avec les possibles dérives notamment néo-nazis du punk. En petite parenthèse, dans le rock institué des années 70, il y a eu quelques dérapages. David Bowie, très coquet, profitait de son look d'officier SS pour se promener en Mercedes des années 30 décapotable, habillé finalement avec un uniforme d'équitation et tendait le bras à qui voulait le voir. Donc évidemment, ça peut un peu embêter les gens. On peut dire que Bowie, bon, finalement, c'est une sorte de dandy qui jouait, mais de manière qui a choqué plus les gens. Eric Clapton, qui est pourtant un bluesman, ivre sur scène, finalement, a fait une longue diatribe contre les immigrés, etc. Et c'est ça qui a fait la création du festival Rock Against Racism. Donc, tout finalement ne va pas bien dans l'Angleterre de ce point de vue-là. Et les Clash, finalement, veulent finalement, profiter du rock pour ouvrir à des valeurs de gauche. The Clash aussi est intéressant parce que, certes, par exemple, leur premier album est un album punk, c'est-à-dire avec des chansons très courtes, avec des guitares ultra saturées, des voix qui beuglent, etc. Mais, contrairement aux Pistols, d'emblée, ils vont intégrer un autre style musical dans leur musique, qui est le reggae. Et donc, le premier album des Clash est très connu aussi pour une reprise de la chanson Police and Thieves de Junior Mervin, mais que les Clash reprennent à leur manière, inventant finalement ce qu'on a pu nommer depuis le reggae blanc, avec lequel The Police a fait fortune, mais finalement avec une version tout à fait diluée et FM-friendly. Ce qui est intéressant dans cet album, des Clash, c'est que il y a deux chansons qui tournent autour finalement des émeutes raciales qui ont eu lieu à Notting Hill dans les années, l'été 76 ou 77, j'oublie. Et donc, eux font une chanson qui se nomme « White Riot », c'est-à-dire « L'émeute blanche », et le refrain est celui-ci « White Riot, I want a riot of my own ». Donc, « Émeute blanche, je veux une émeute, je veux mon émeute à moi ». Et le groupe, finalement, regarde en disant « Ben voilà, finalement, les Jamaïcains de Notting Hill, au moins quand la police les embête, ils réagissent, ils se battent dans la rue, ils font quelque chose, et finalement, nous, la jeunesse, finalement, blanche, rock, on ne fait rien, donc il y a cette volonté d'émuler ». Mais en même temps, et ça c'est un effet de perspectivisme intéressant, ils reprennent aussi donc cette chanson de reggae, Police and Thieves, qui était plus ou moins la bande sonore officielle des émeutes, c'est-à-dire dans les sound systems qui jouaient dans la rue, c'était ce morceau qui jouait tout le temps, et donc les Clash en proposent leur version à eux, avec finalement les accents rythmiques un peu inversés, avec la guitare distorsionnée, etc. Mais d'emblée, finalement, ils ouvrent le punk sur autre chose. Ceci mène donc vers 1979, à l'époque où les Clash préparent London Calling, à un étiolement de la première vague punk, c'est-à-dire les Sex Pistols se sont autodétruits. Le punk commence à se figer, à se codifier, tel qu'on le voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire les Doc Martens, les Crêtes, etc., ça n'existait pas dans le premier punk, mais ça commence à s'affirmer en 1979. Ça ouvre la voie des groupes comme The Exploited, GBH, etc., qui vont vraiment faire du punk anglais un immense cliché. Et finalement, les Clash voient ceci, voient aussi finalement ce que ce public punk leur permet et ne leur permet pas de faire, et décident de s'émanciper. Et donc, finalement, retournent en studio pour faire London Calling avec cette volonté assumée, finalement, d'ouvrir le genre. Donc, dernière petite précision, et on pourra vraiment passer à l'album lui-même. The Clash, finalement, ce sont, du moins, les deux chanteurs-compositeurs, Mick Jones et Joe Strummer, des gens qui ont une immense culture musicale. Une culture musicale qu'ils ont cachée au début du punk, parce que finalement, ça ne se faisait pas. Il fallait faire semblant de s'émanciper de tout le reste. Mais qu'ils ont progressivement finalement ressorti des oubliettes. Et entre autres, un single de transition entre le deuxième et le troisième album, c'est une reprise de la chanson « I Fought the Law » que vous avez tous sûrement déjà entendue, qui est finalement une vieille chanson de Sonny Curtis qui joue dans les Crickets avec Buddy Holly. Et donc, eux la reprennent et au même moment, finalement, retrouvent un look un peu rockabilly avec des bananes, etc. Et réussissent finalement à s'imposer comme un groupe de rock'n'roll et non plus simplement un groupe de punk. Et ça ouvre finalement la porte pour ce que sera London Calling, qui sera vraiment, en fait, une grande exploration de tout le rock'n'roll qui avait pu précéder. Bon, parler de rock peut être ennuyeux. Je vous propose tout de suite d'écouter le morceau London Calling, qui est vraiment le morceau qui donne son titre à l'album et qui, de l'avis de la plupart des critiques, vraiment, résume à la fois stylistiquement et thématiquement vraiment, ce qui se passe dans l'album. Vous avez les paroles, je vous propose de l'écouter au complet et j'en fais un bref commentaire ensuite pour après vraiment vous parler de l'album lui-même.
Declare and battle goes down. moment. Some similar engines are running. The wheat is going to be a nuclear error. But I have no fear.
C'est pas du punk. C'est plus du punk, c'est autre chose. C'est en même temps un morceau qui est plutôt difficile à catégoriser par rapport à des genres préexistants. On peut dire que c'est une sorte de vague rappel du reggae ou du ska blanc qui est pratiqué par le groupe, c'est-à-dire que c'est de la guitare vraiment qui martèle en syncope, mais ici c'est sur les temps et non pas sur les contretemps comme on le fait dans la musique jamaïcaine. Comme notamment dans le punk, on a une grille d'accords qui est plutôt simple, mais on a ici quand même une pseudo-sophistication, c'est-à-dire que les accords de base de l'intro qui résonnent un peu partout, c'est finalement un mi mineur et un fa majeur, mais le mi mineur continue à résonner, il y a une guitare qui continue à le faire pendant que le fa majeur commence à jouer, ce qui finalement fait résonner des 9e et des 11e à l'arrière-plan. Bon, c'est vraiment une sorte de touche que vraiment faut écouter au casque pour la déceler, mais quand même, là encore, on est dans une sorte de sophistication harmonique qui n'est pas du tout propre au punk rock. On a aussi droit à une basse, donc, avec un son extrêmement rond, qui est propre au reggae, mais avec l'inventivité qui est assez propre au punk, elle fait, dans l'introduction, une ligne musicale qui, normalement, serait dévolue au cuivre. Et donc, là encore, il y a certain minimalisme et cette invention qui vient avec, donc, bon, pour le bodom, c'est vraiment... des punchs qu'une section cuivre devrait faire, mais ici c'est la basse qui les tient. Et finalement, donc, s'impose une sorte de rythme qu'on pourrait dire finalement un peu à la fois martial, mais avec un certain swing, et donc qui est un peu difficile à catégoriser. Dans le milieu, vous avez un solo de guitare qui se veut ostensiblement non virtuose, c'est-à-dire c'est à peu près 4 guitares, dont 2 à l'envers, qui superposent des notes, et donc c'est vraiment davantage un effet de texture sonore. La voix, finalement, donne souvent des onomatopées, on est « au, au, au ». On pourrait croire à un loup-garou. En fait, selon mes lectures, c'est Joe Strummer qui voulait imiter les mouettes sur la Tamise. Et deux choses qui sont intéressantes, et ça c'est typique de l'esthétique clash de London Calling, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la fin, ce n'est pas du tout une apothéose, c'est plus la chanson qui se délite tranquillement. Et sur London Calling, il y a beaucoup de morceaux qui sont comme ça. La dernière minute, on dirait que chacun part un petit peu dans sa direction. C'est pas vraiment de l'impro, mais on dirait que la cohésion de la chanson commence à se perdre tranquillement à la fin du dernier refrain. Et ici, ça se termine avec la guitare qui, vraiment, en jouant sur le toggle pour les pick-ups, très bon français, fait du code morse pour SOS. Donc, pip, 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 pip. Donc, un morceau qui, d'une certaine façon, évoque juste dans sa forme, finalement, un peu tout ce pourquoi, finalement, ce qui intéresse les clashs, c'est-à-dire à la fois essayer d'intégrer finalement une palette musicale élargie, donner un certain sentiment finalement d'apocalypse ou de fin du monde, et aussi faire preuve d'une certaine inventivité. Ceci est relayé dans les paroles, où finalement Joe Strummer, après, là encore, s'est auto-censuré pendant un moment, renoue finalement avec ce qui, le style qu'il aimait dans sa jeunesse, c'est-à-dire le style beat d'un Bob Dylan ou d'un Woody Guthrie. Donc, si on traverse rapidement ce qui est dit, London Calling, je ne sais pas si vous voyez la référence, mais en fait, c'est l'indicatif de la BBC World Service depuis les années 30. Et c'est quelque chose qui a particulièrement résonné pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que tout le monde écoutait la radio britannique pour avoir des nouvelles, et donc « This is London Calling » est automatiquement associé à un certain message de résistance. Donc évidemment, un groupe londonien va récupérer ceci et se place vraiment au plein cœur de cette espèce comme de diffusion. Petite parenthèse, les Clash, finalement, en entrevue, on peut déclarer qu'ils étaient nostalgiques de cette époque de la fin des années 60 où les groupes, finalement, sortaient des 45 tours aux deux mois et des 45 tours qui commentaient directement l'actualité. Par exemple, le Street Fighting Man des Rolling Stones qui sort, finalement, peu après mai 68, qui revient, finalement, directement sur les événements. Et eux, finalement, aspirent à refaire un peu la même chose, donc d'où l'idée, finalement, de cette radio. Ils y reviendront d'ailleurs, comme ils ont fait un autre single qui se nomme « This is Radio Clash ». Donc, ils aiment bien cette idée, finalement, d'être un média pour diffuser des choses. Donc, si on regarde les paroles, donc « London Calling to the Faraway Towns », évidemment, ça c'est « On s'adresse », donc vraiment comme la BBC. « War is declared and battle come down », donc c'est le sentiment d'apocalypse général. « To the underworld », bien évidemment, c'est l'underground punk. Et donc « Come out of the cupboard, you boys and girls », donc sortir du placard, affirmez-vous, finalement, manifestez-vous. Mais London Calling, après donc avoir lancé l'appel, Don't Look to Us, donc ça c'est très important, le groupe finalement ne veut pas s'ériger en tête de file de quoi que ce soit, et précise Phony Beatlemania has bitten the dust, ce qui a un double sens, soit ça renvoie à la culture des 60s, mais aussi finalement à ce mouvement punk qu'ils viennent finalement de, dont ils viennent de prendre leur distance. Et donc London Calling, see, we ain't got no swing, except for the ring of that crunch and thing. Parole ici amusante. D'une part, ça renvoie finalement au swinging 60s, et donc là encore, en s'en distanciant. Mais finalement, lorsqu'on rajoute le swing du Trunch and Thing, ça renvoie aux matraques dont les policiers faisaient un bon usage dans les manifestations à l'époque, et donc ici un double sens. Après donc, the ice age is coming, the sun is zooming in, meltdown expected, the wheat is growing thin, engine stopped running, but I have no fear, London is drowning, and I live by the river. Ça, c'est vraiment un pur échantillon de discours social. À l'époque, le réchauffement climatique n'est pas encore un fait avéré. On hésite finalement entre un refroidissement et un réchauffement. Et apparemment, finalement, les discours scientifiques oscillent entre les deux. Donc, finalement, sous peine de paraître contradictoire, c'est à la fois une ère de glaciation ou finalement le soleil qui arrive. Le meltdown, c'est Three Mile Island qui vient finalement de se produire. Donc là encore, ça n'aide en rien à le sentiment de bien-être général. Il y a aussi tellement des problèmes de pénurie de récolte, donc le wheat is growing thin, et aussi avec la crise du pétrole, des problèmes de pénurie d'essence, donc engines stop running. À tout ceci, avec les dérèglements climatiques, il y a un problème avec la Tamise, c'est-à-dire Londres à l'époque a vraiment peur de se faire inonder. Donc finalement, ça ramène toute cette espèce d'apocalypse vraiment à la maison. Et finalement, lui dit « London is drowning and I live by the river », donc c'est l'idée de se mettre exactement en plein milieu. Pour vous faire rire, Mick Jones n'a pas pu s'empêcher après de dire que certes, Joe Strummer habitait près de la Tamise, mais dans un HLM, donc même si ça débordait, il ne serait pas particulièrement victime de la chose. Mais bon, l'image tient quand même. Ça se poursuit. Donc, London Calling to the Imitation Jones, forget it, brother, you can go it alone. Là encore, c'est la démarche que le groupe entreprend. Finalement, le groupe veut que le public fasse la même chose, c'est-à-dire ne pas se borner à reproduire tous les stéréotypes du punk. Donc, calling to the zombies of death, quit holding out and drawing out of breath. Là encore, les zombies, c'est soit finalement dans cette thématique apocalyptique, vraiment les habitants plus ou moins logiques de la ville. Mais aussi, peut-être, là encore, c'est ces individus un peu décérébrés qui auraient été pris dans un mouvement en perte de vitesse. Et donc, « draw another breath », c'est vraiment de revivre, de respirer à nouveau. Et donc, « I don't want to shout, while you were talking, I saw you nodding out, we ain't got no eyes, except for that one of the yellowy eyes. » Tout ceci, finalement, renvoie d'une certaine manière à l'épidémie d'héroïne qui, entre autres, décimait le punk anglais. Donc, finalement, « nodding out », c'est vraiment le junkie qui est incapable de se concentrer. Donc les highs, c'est auto-explicatif. Et yellow eyes, c'est l'hépatite, finalement, dont Joe Strummer a lui-même été victime, qui, finalement, menaçait à peu près tous les gens qui pouvaient se shooter. Donc, finalement, le refrain, finalement, reprend un peu la même chose. Et, finalement, donc, après, Donc, comme je disais, le morceau tend à se déliter. Il le fait exactement aussi dans le texte. Donc, « Yes, I was there too. Well, some of it was true. » Ça devient de la conversation. Ça finit avec une sorte de slogan, « London calling at the top of the dial. » Donc, ça renvoie à l'idée de la radio, donc finalement, le cadran de la radio. Mais aussi, « top of the dial », c'est l'horloge qui a minuit. Et minuit, en général, c'est considéré comme finalement, l'heure à laquelle finalement, tout peut ou non se passer. Donc, un morceau, finalement, qui est plutôt riche et qui donne le ton à tout ce qui va suivre. Et qu'est-ce qui suit exactement? Comme je disais tout à l'heure, « London Calling » se veut une sorte de retour sur l'ensemble de la musique populaire à connotation rock qui a précédé. La pochette est en elle-même extrêmement parlante. On y voit finalement une photo prise en concert de Paul Simonon en train de fracasser sa basse. C'est pas du tout mise en scène, c'est-à-dire à la fin d'un concert où le son était pourri, il était vraiment énervé et a carrément décidé de fracasser son instrument. Mais cette photo, finalement, comme vous pouvez le voir, est mise en scène de manière à rappeler le tout premier disque d'Elvis Presley. Donc, si vous regardez le CD qui est en couleur, alors que l'image que je fais passer est en noir et blanc, le lettrage est exactement de la même couleur, tout est présenté de la même façon. Mais Elvis, finalement, sourit en tenant une guitare sèche et plein d'enthousiasme, alors que Paul Simonon, lui, fracasse sa basse. Et il y a vraiment cette volonté, donc, de s'inscrire dans la continuité du rock, mais en montrant, finalement, que quelque chose a changé. Et notamment, finalement, le genre a désormais une certaine agressivité. S'ensuit donc un tour d'horizon à la fois musical et thématique. Malheureusement, pas le temps de vous faire écouter tout le disque, donc je vous le résume très rapidement. Le deuxième morceau de London Calling, c'est une reprise de la chanson rockabilly Brand New Cadillac de Vince Taylor. Vince Taylor qui était une sorte de Marlon Brando schizophrène. La chanson... c'est vraiment le beau bonhomme habillé en cuir, notamment qui finit par se prendre pour Jésus. C'est vraiment comme le pur taré dans la tradition rock. C'est pas pour rien que les Clash, finalement, commencent leur tour d'horizon avec quelqu'un comme ça. La version originale parle, finalement, d'une fille qui, finalement, quitte son bonhomme pour aller rejoindre quelqu'un dans une autre Cadillac. Et, finalement, le premier, finalement, embarque dans sa Cadillac à lui. Il y a une poursuite de Cadillac où il cherche à rejoindre la fille. Les Clash modifient les paroles pour en faire une version plus féministe. Cette fois-ci, il y a juste la fille qui a une auto et la fille passe voir son ancien copain au volant de son auto en l'envoyant promener et en partant finalement seule dans son auto alors que le type se désole. Donc après, c'est ce retour finalement au rock'n'roll. On fait encore un pas en arrière et il y a Jimmy Jazz qui est une sorte de chanson pseudo-jazz, une sorte de lounge un peu gitan, qui renvoie finalement une ambiance très années 30 et 40 et qui parle du monde des gangsters, le monde des films noirs, etc. On a ensuite la chanson « Hateful » qui finalement mélange une sorte de ligne de synthé New Wave à ce qu'on a pu appeler le « Bo Diddley Beat » mais qui renvoie encore à la fois à Bo Diddley, donc un des ancêtres du rock'n'roll avec qui les Clash ont pu tourner, mais aussi finalement aux Stones qui, avec « Not Fade Away », ont fait connaître finalement ce type de rythmique en Angleterre. Et cette chanson, donc, parle de la relation malsaine d'un drogué avec son pusher. On en arrive à Rudy Can't Fail, qui, finalement, est une chanson ska, qui parle, finalement, de la déshérence de la jeunesse britannique par rapport au chômage, à la drogue, à l'autodestruction, etc. Mais Rudy renvoie à une thématique tout à fait jamaïcaine, celle des Rude Boys, qui, finalement, eux-mêmes étaient, finalement, des voyous de l'époque en Jamaïque. On en arrive à Spanish Bombs, que j'aimerais vous faire écouter tout à l'heure si j'ai deux secondes, qui finalement parle de la guerre d'Espagne avec un air extrêmement mélancolique. On a ensuite, donc jusque-là, on dirait que tous les thèmes quand même fonctionnent par rapport à un groupe punk. Ça devient très étonnant avec The Right Profile, qui est une chanson swing, qui parle de l'acteur Montgomery Clift, qui finalement, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, mais c'est quelqu'un qui jouait dans The Misfits, From Here to Eternity, qui était vraiment le beau bonhomme, extrêmement troublé, et qui a fini par avoir un accident d'auto parce qu'il conduisait complètement gelé, et il s'est littéralement cassé la gueule, c'est-à-dire il a eu comme tout le visage fracturé, mais il avait un film qui n'était pas terminé, et donc le réalisateur a toujours pu le filmer de droite parce qu'il était complètement défiguré à gauche, et donc d'où l'histoire de Right Profile. Donc, mais l'idée, c'est donc, il y a toutes sortes de références qui se cumulent. Et ensuite, là, c'est The Supermarket, qui, finalement, est très autobiographique, qui parle, finalement, de l'enfance en banlieue, avec une belle parole comme « I wasn't born so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. » Donc, mais qui vient, finalement, avec un beat disco, mais très parodique, pour dénoncer le consumérisme ambiant. Il y a la chanson « Clamp Down » qui parle de l'aliénation ouvrière, et finalement, où alors que Topper Redon, le batteur des Clash, est un virtuose, fait toujours le beat « tout, tch, tout, tch, continuellement pour rappeler finalement la machine, donc une sorte de réponse à Adorno qui n'ont pas dû lire. Et on en arrive à The Guns of Brixton, chanté par Paul Simonon, le bassiste, qui est finalement un pur reggae qui raconte finalement les émeutes londoniennes. J'en reste ici, mais ça c'est vraiment le premier disque des deux disques et ça continue. Donc je vais un peu rapidement parce que le temps file, mais l'idée c'est vraiment de vous montrer qu'il y a une sorte d'exploration de tout ce qui a pu précéder, c'est-à-dire le jazz, le rockabilly, le reggae, le ska, il y a un peu de soul, il y a du disco qui est contemporain, mais vraiment, ils essayent de jouer avec un peu de tout. Donc, l'album est donc intéressant d'une part parce qu'il y a l'inventaire de la culture populaire qui précède finalement le punk. Il y a un métissage des genres entre eux, mais aussi avec le son clash. Mais il y a aussi, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, une certaine prédilection pour les genres musicaux qui sont liés à une forme de subversion sociale. Donc on essaie d'aller chercher une forme qui est significative. On essaie, du point de vue des paroles, finalement, de proposer des textes qui reflètent la forme. Donc quand on fait du jazz, on va parler de gangster. Quand on parle finalement de... Quand on fait du reggae, on va parler de rude boy. On explore les sujets politiques chauds de l'heure ou finalement des espèces de mythologies du passé qui peuvent intéresser. Un des albums suivants des Clash, qui est bien nommé Combat Rock, Combat Rock, commence avec Joe Strummer qui dit « A public announcement with guitar ». Et ça résume à peu près la démarche des Clash de ce point de vue-là. Et donc, à la fois donc, des sujets d'actualité et une sorte de mythologie de la marginalité, le tout métissé avec des éléments d'autofiction pour donner une sorte d'assise et d'authenticité à la chose. Il y a une architecture générale à l'album. Ça, c'est une autre idée qui avait été lancée ici par Jean-François Chassé après la conférence de Philippe, qui disait que finalement, peut-être analyser une seule chanson ou un seul morceau est insuffisant et qu'il faut vraiment voir l'album comme un recueil de poèmes. C'est tout à fait vrai dans le cadre d'un album comme London Calling, qui finalement n'est pas seulement un inventaire, mais aussi où les choses se répondent entre elles. Par exemple, après finalement, la première chanson de London Calling, il y a, comme je vous l'ai dit, une chanson d'auto, et la toute dernière chanson de l'album, c'est Train in Vain. Donc ce n'est pas innocent dans un album qui veut remonter aux racines du rock'n'roll de parler à la fois du train et de l'auto. C'est le thème d'à peu près toutes les vieilles chansons blues et rock, mais surtout rock. Un autre exemple, le groupe était un peu mal à l'aise avec la chanson de Guns of Brixton qui avait été composée par Paul Simonon. C'est pas pour rien que Nick Jones et Joe Strummer ne chantent pas. Ils trouvent que c'est une sorte d'incitation à la violence gratuite. Et ils s'arrangent pour la borner avec d'une part une chanson sur l'aliénation, Clamp Down, et tout de suite après la chanson Rung and Boyo qui dénonce la violence gratuite. Donc c'est une manière aussi d'insérer des perspectives qui se répondent au sein de l'album. Et d'une certaine manière, toute la mythologie rebelle qui est déployée dans le disque se voit dégonflée par le morceau Death or Glory, qui montre finalement comme quoi même finalement, les gens les plus rebelles finissent toujours par se faire récupérer par l'existence. Donc ça commence avec ces paroles toujours drôles. Every cheap hood strikes a bargain with the world and ends up making payments on a sofa or a girl. Mais bon. Ceci dit, cette espèce d'architecture interne n'est pas un principe général, ça fonctionne pour les grands albums. London Calling s'intègre vraiment dans la tradition des grands albums doubles qui ont été pensés comme tels, conçus comme tels. Et c'est là que je triche un peu en allant chercher un album qui marche particulièrement bien. Le temps passe. Je vais quand même, juste pour vous montrer comment fonctionnent les Clash, un autre extrait de la chanson Spanish Bombs que je trouve intéressant parce que tout ce que je viens de vous dire sur le métissage des imaginaires fonctionne directement au sein d'un seul morceau. Thank you. rester là parce que le reste du morceau tourne un peu dans la même direction. Mais disons, ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est que d'une part, ça dégage un très vague air latin, mais ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de guitare sèche qui est parfois un peu syncopée, donc on peut se dire, ben voilà, quelque chose d'un peu espagnol. Mais en fait, si on regarde un peu la structure des accords avec notamment l'accumulation d'accords mineurs, ça ressemble beaucoup plus à un vieux slow rock'n'roll, d'autant plus qu'il y a une espèce de ligne de guitare très simple et mélancolique qui vient se surimposer. Cela dit, là où ça demeure quand même un morceau des Clash, c'est que la batterie, mais surtout la basse, est extrêmement rythmée et trépidante par en dessous, ce qui confère une énergie, même si les guitares sont beaucoup plus souples. Du point de vue des paroles, c'est peut-être pas le morceau le mieux écrit des Clash, mais par rapport à ce que j'essaie de montrer autour de London Calling, c'est celui qui est le plus représentatif. Il y a à peu près quatre niveaux de récits différents là-dedans. C'est-à-dire, d'une part, il est question de la guerre d'Espagne, donc de l'Andalousie, des jours de 39, de Guardia Civil, des murs du cimetière, etc. Il y a aussi une ouverture vers Garcia Lorca, c'est-à-dire lorsqu'il est dit au troisième couplet « Livre de Vendana Open », ça c'est ce que Joe Strummer appelle du Spanish class, Spanish Clash, donc finalement, il n'a jamais appris l'espagnol, mais l'a souvent chanté. Ici, en fait, c'est plutôt la ventana, donc la fenêtre, ce qui renvoie à la fois, finalement, au nocturne de la fenêtre de Garcia Lorca, mais aussi à Dieu, où il dit, où est-ce que j'ai noté ça? Si je meurs, laissez le balcon ouvert, donc finalement, laissez finalement, la fenêtre du balcon ouvert. Donc, référence à la poésie espagnole de l'époque, donc un premier niveau. Un deuxième niveau, on ouvre tout à coup au terrorisme actuel. Donc, il est question les discos casino, dans le troisième couplet aussi, les Spanish bombs on the Costa Brava. Donc, finalement, c'est les séparatistes basques qui commencent à s'agiter à peu près au même moment. Donc, un parallèle qui est fait entre la situation de 39 et la situation de 79, mais qui renvoie aussi à « Back home, the buses went up in flashes, the Irish tomb was drenched in blood ». Donc là, ça renvoie au terrorisme cette fois-ci de l'IRA, donc autre niveau de sens. Mais finalement, après, il y a une sorte d'autofiction où il dit, le chanteur, donc il dit « I'm flying in on a DC-10 tonight », donc je vais me mettre là-dedans. Et on vient finalement à faire semblant que sa copine, My Señorita, a été victime finalement d'une bombe dans un hôtel quelque part sur la Costa Brava. Donc, peut-être pas le morceau avec le texte le plus profond des Clash, mais qui est juste intéressant parce qu'il y a vraiment comme quatre niveaux de narration différents qui y cohabitent et ça correspond vraiment au visé de l'album. Donc, que retenir de tout ceci d'un point de vue non pas clashien, mais d'un point de vue plus sociocritique? D'une part, ce qui est intéressant avec un album comme London Calling, c'est qu'on peut y voir ce que j'appellerais une double volonté de représentation. D'une part, représenter le monde, le donner à voir, donc le dévoiler pour dire comme Sartre, mais aussi finalement représenter les gens dont il est question, c'est-à-dire être le mandataire finalement des réalités qui sont évoquées. Et comment est-ce qu'on finalement s'instaure comme mandataire? Ben, en s'appropriant finalement les codes propres finalement aux réalités dont il est question. Donc si on veut parler finalement des émeutes raciales, on va aller chercher un peu de reggae. Si on veut parler finalement de la guerre d'Espagne, on va essayer d'être vaguement latin, etc. Donc, cette double représentation, mais qui finalement culmine, et ça c'est vraiment l'idée qui était lancée dès le White Riot dont je parlais tout à l'heure, où les Clash finalement sont en quête d'un langage, sont en quête d'une forme, et finalement cette exploration vise finalement à constituer quelque chose qui leur sera propre. Donc finalement, lorsque j'ai appelé mon propos « Composer l'imaginaire », c'est vraiment par rapport à ça. C'est-à-dire qu'un album comme London Calling, c'est vraiment une somme de références musicales et thématiques. Il y a une interdiscursivité musicale qui joue davantage au niveau des styles que finalement des énoncés eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas tant des mélodies qui sont récupérées, mais on va chercher des styles musicaux avec un certain nombre de caractéristiques et les connotations qui sont associées à ces styles musicaux. Il y a également une interdiscursivité thématique qui fonctionne finalement essentiellement par amalgame. C'est-à-dire, on va chercher à la fois des réalités politiques du moment et des mythologies rebelles qui peuvent intéresser. Donc, il y a vraiment un effet d'ensemble qui se constitue, dans lequel notamment fonctionne parfois un certain dialogisme, mais ce n'est pas un principe absolu. Donc, un album comme London Calling vraiment devient une sorte de monde en raccourci, d'univers en raccourci. Et là, la grande question, c'est quel est le rapport donc, de ce monde de London Calling à l'imaginaire social at large, puisque c'est vraiment le genre de question qu'on se pose au Christ et dans la sociocritique. C'est là que j'ai une proposition que, qui n'est pas suffisamment étoffée, mais que j'aimerais quand même lancer. En général, on considère qu'un bon roman, c'est quelque chose qui va reprendre, transformer l'imaginaire social, et donc qui va avoir une position critique par rapport à celui-ci. Je suis loin d'être certain que le rock arrive à faire ça. Le rock, si on regarde uniquement par rapport à ce critère, c'est-à-dire vraiment être capable d'avoir une perspective critique sur l'imaginaire, je suis loin d'être certain qu'il y arrive toujours. On arrive surtout un peu, comme le disait Pierre tout à l'heure, à la création finalement d'un certain nombre de condensés, mais qui ne remettent pas forcément en question finalement une certaine doxa extérieure. Cela dit, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est cette volonté de constituer l'imaginaire. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une certaine visée dans le rock qui aspire moins à remettre en question des représentations extérieures qu'à vraiment essayer de se faire une sorte de rempart, de forteresse, où finalement, on va chercher un peu tout ce qui nous intéresse, on se crée son petit monde parallèle, qui n'est pas une pure évasion parce que ce monde se crée finalement à l'encontre finalement de la société en général, mais qui vise avant tout finalement une sorte d'auto-référentialité. Et donc c'est l'hypothèse que je lance ici. C'est-à-dire que la démarche des grands groupes de rock, donc ça peut être les Clash, mais ça peut être les Stones, les Who, c'est vraiment de constituer un imaginaire pour ceux qui s'en estiment démunis. Donc d'essayer de fonder vraiment une sorte de culture populaire, donc de fonder une sorte de communauté rock qui repose sur des valeurs et des références partagées. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on va chercher donc des références à la fois réelles et aussi des références de mythologie qui inspirent, et finalement, mais ces références se retrouvent finalement surchargées du sens qu'on veut bien leur donner. Par exemple, Montgomery Clift n'est pas du tout quelqu'un qu'on pourrait associer au post-punk, mais avec les Clash, finalement, sa démarche d'acteur hollywoodien déchu, finalement, devient intéressante et fait partie de cet imaginaire. Donc, il y a une sorte de reconfiguration de ce point de vue qui marche un peu comme le fait la littérature, c'est-à-dire les choses que le rock passe dans sa moulinette, il réussit finalement à leur conférer une valeur rock, même si finalement ça ne change pas forcément, il n'y a pas forcément une position critique par rapport à un ensemble. Donc, l'idée, et je conclurai là-dessus, c'est que de ce point de vue, le rock vise moins à offrir une perspective critique sur l'extérieur qu'à créer une sorte d'empowerment chez l'auditeur, c'est-à-dire à la fois avec une musique qui est énergique, une musique qui finalement donne la pêche, mais aussi finalement en donnant, finalement en conférant un certain imaginaire qui peut là encore donner une certaine force. Et je vous disais que ce que je trouvais intéressant dans le recording, c'est le fait que les chansons se décomposent dans la dernière minute. C'est comme si The Clash eux-mêmes reconnaissaient la difficulté de constituer ce type d'imaginaire artificiel et laissaient entendre par la forme que finalement, sitôt qu'on le fait tenir la chose ensemble, elle finalement tend à se décomposer aussitôt. Voilà.